Chapitre 1. Il est rare que les hommes de quelque valeur, parvenus à un âge sérieux de la vie, ne se préoccupent pas, même à leur insu, de la physionomie et de l'attitude qu'ils auront dans le monde quand ils n'existeront plus que par leur nom. Cette vérité saute aux yeux en voyant le soin avec lequel Montaigne, Rousseau et Voltaire, entre mille autres, font la toilette à leurs ombres. Celui-là dans ses merveilleux essais, Rousseau dans ses scandaleuses confessions, Voltaire dans son admirable correspondance. Ils se font les courtisans obséquieux, les amants de la postérité, avec une candeur imperturbable. On dirait des souverains jaloux d'envoyer leurs portraits aux majestés de l'avenir afin de savoir, ou plutôt de prévoir, car ils ne le sauront jamais, comment ils seront accueillis par elles. Balzac, ou de Balzac, le deux je crois ne fait rien à l'affaire, échappe à cette règle à peu près générale. Il ne donne pas une minute à la pensée qu'on voudra savoir un jour, au-delà de ses livres, son opinion, son caractère, le menu familier de ses habitudes, sa participation plus ou moins grande au prosaïsme de la vie commune. S'il lui arrive, après l'ivresse orientale du café, assis entre son meilleur ami Laurent Jean et moi, de parler de quelque établissement sérieux où il se retirera quand il sera très riche, il le construit dans des proportions si colossales, si splendides, que Salomon aurait reculé de toute la rapidité de ses sandales devant l'énormité de la dépense. Or, quand on se jette dans ces abstractions, enrichies d'impossibilité, pour rentrer le soir à Paris sur l'impériale cahotée des obligeantes de Versailles, on ne se soucie pas beaucoup, je présume, de savoir si l'on figurera en bronze, en granit, en jaspe ou en marbre au Panthéon de l'avenir. Ce n'est pas cependant que cette vaste mer, car Balzac fut une mère, ne comprit pas certaines limites, mais il les posait si loin, si loin. Il les reculait si aventureusement au gré de sa formidable fantaisie que l'infini et le néant se fondaient en lui. Et à ce point que, bien souvent, au bout de ses projets, ou plutôt de ses rêves, lui semblait être devenu fou, et ceux qui l'écoutaient complètement imbécile. En un mot, et pour rigoureusement préciser, il était l'être encyclopédique par déraison et par excellence. Il ne voulait pas d'un fait pris à part. Pour lui, ce fait tenait à un autre fait, cet autre à mille autres, l'atome dans ses doigts devenait un monde, le monde à son tour créait un univers. Tout ce qu'il écrivait, articles, livres, romans, drames, comédies, n'était que la préface de ce qu'il comptait écrire, et ce qu'il comptait écrire n'était qu'une préparation à d'autres ouvrages pareillement générateurs. Aussi l'on peut dire de sa vie ce qu'il disait lui-même de chacun de ses ouvrages, qu'elle n'a été que la préface de sa vie. Il s'est endormi sur les marches du portique. Il a été un moment où les journaux, il y a quelque 12 ou 15 ans, se sont beaucoup occupés de Balzac. Mais ils l'ont fait comme ils font tout, c'est-à-dire vite et sans réflexion. Ils ne parlèrent que de ses cheveux, de ses bagues et de sa canne. Il fut le lion de la quinzaine, mettons, de l'année, puis ils le laissèrent après l'avoir grossi, exagéré et démesurément enflé. Il faut le dire, c'est cette caricature de l'homme extraordinaire qui est restée dans l'esprit de la génération. La faute, avouons-le aussi, n'appartient pas tout entière aux journalistes. Après avoir rempli le monde du bruit de ses succès, un monde qui veut toujours voir et toucher le Dieu dont il salue les miracles, Balzac, demeuré jusque-là caché dans les mines de la méditation, revêt tout à coup l'habit du manne, endosse le gilet blanc, hausse le carcan de sa cravate, saisit une canne d'or et vient, en pleine lumière d'opéra, se carrer dans la belle loge d'avant-scène à côté de Monsieur Véron. Nous voyons encore son entrée. Nous le voyons pendant tout un hiver se complaire à ce spectacle dans le spectacle. Quelle impression pouvait emporter les témoins passionnés, mais toujours un peu railleurs, de cette apparition théâtrale? Balzac fut un lion, comme le dé d'Alger l'avait été, comme Don Pedro l'avait été pareillement, comme, à des titres moins sérieux, le furent à leur tour bien d'autres personnages. C'était trop donné d'un coup pour avoir si peu donné jusque-là. Sa condescendance à se montrer ne manqua pas son heure, peut-être, mais elle manqua à coup sûr de mesure. Il éblouit, il étonna, mais il étonna trop pour se laisser voir. Il produisit l'effet du soleil dans une glace. Par conséquent, on le vit peu, on le vit mal. L'opinion surprise le défigura. Elle reviendra sur cet éblouissement. Elle revient déjà. Mais il faudra bien du temps encore avant qu'elle arrive à ce milieu net et calme où la fumée de la vie s'épure et devient une auréole autour du front de l'homme supérieur. Après cette violente explosion, Balzac s'éteignit. Non pas dans le calme, il ne connut jamais le calme, mais dans un isolement relatif. Il pendit son habit au clou, jeta sa cravate blanche dans un coin et cacha sa ridicule canne d'Alcibiade. Les journaux peuvent dire, pour leur défense, que s'ils ont mal connu Balzac, s'ils l'ont mis d'abord sur un piédestal grotesque, c'est que de son côté, Balzac n'a apporté aucun soin à se découvrir, à se laisser étudier sous un angle favorable. Il allait peu dans les théâtres, on ne l'a peut-être pas vu 3 fois dans sa vie au foyer de la Comédie-Française. J'eus toutes les peines du monde à le faire rester en place, dans sa stalle, à la première représentation des Burgraves. À chaque instant, comme un enfant revêche, il me disait « Est-ce fini? Quand cela sera-t-il fini ?» Pourtant, il admirait beaucoup Victor Hugo. Mais il n'aimait pas accorder une longue attention à un spectacle quelconque. Nous en revenons donc à ceci. Balzac n'est pas bien apprécié, au point de vue biographique et de la vie privée, par la raison déjà exprimée qu'il ne s'y est pas prêté, qu'il n'a pas tenu à faire, comme nous l'avons dit, la toilette à son ombre. S'il n'allait pas beaucoup dans les théâtres, il n'allait pas beaucoup plus dans le monde, qu'il ne consentait guère à traverser qu'après le succès de quelques-uns de ses beaux livres, et quand il était sûr de justifier l'attention si souvent enthousiaste qu'il inspirait. Il serait donc à peu près impossible, dans 20 ans, de connaître les particularités biographiques de Balzac si l'on devait compter soit sur les indiscrétions contemporaines des journaux, soit sur les révélations des gens du monde, lesquels, du reste, écrivent peu. Le monde a d'ailleurs été à son égard d'une opinion si différente, si opposée aux 2 principales époques de sa vie littéraire, qu'il n'est pas sans quelque utilité de dire ici, dans l'intérêt des historiens futurs de cet écrivain si remarquable, sur quoi a porté cette différence et ce qui l'a motivé. Le grand, l'immense succès de Balzac lui est venu par les femmes. Elles ont adoré en lui l'homme qui a su, avec éloquence, par de l'ingéniosité encore plus que par la vérité, prolonger indéfiniment chez elles l'âge d'aimer, et surtout celui d'être aimé. Cette galanterie, en 40 ou 50 volumes, les a exaltés comme le ferait le fanatisme d'une religion nouvelle. Balzac leur a apporté du pays de son imagination, de la Palestine de son idéal, un évangile amoureux. C'est une religion d'amour, pas moins, qu'il a fondée. Elle durera ce qu'elle pourra, là n'est pas la question. À ce premier et formidable élément de succès, il en a joint un autre, qui a complété sa théorie chevaleresque. Non seulement il a rendu les femmes dignes d'être aimées jusqu'à l'âge où autrefois elles se souvenaient à peine d'avoir été aimées, mais il a pris le parti héroïque de les présenter toujours comme victimes, même comme victimes de leur propre infidélité. Il s'efforce de réduire en principe un paradoxe dangereux. Peu de femmes, dans ces créations charmantes, éternelles, sont avouées au blâme. Il les excuse. Il fait mieux, il devine leur faute au point qu'on doit douter, à l'en croire, si la vertu et la constance ne les rendraient pas moins dignes de respect. Il ne faut pas tant de concessions pour se faire adorer d'une génération qui n'a pas que des vertus à se reprocher. Cette adoration a marqué les premiers pas de Balzac dans la voie de sa grande renommée. Mais voilà que cette adoration s'est prise à douter d'elle-même, à s'en vouloir beaucoup dans l'âme du plus grand nombre de ses ferventes, le jour où il est entré dans un monde plus vraisemblable de passion, le jour où il a vu des crispations dans les serres, avec des frémissements d'ailes, le crime et l'audace dans les yeux fauves de Vautrin, la sombre misère dans les coins de la vie sociale. Les éventails se sont déployés devant les visages allumés par la rougeur. La religion qu'il avait révélée a eu ses protestants pleins de haine contre lui, leur dieu primitif. Les grandes dames du faubourg Saint-Germain ne l'ont plus regardé que de profil, les fières bourgeoises de la chaussée d'Antin, moins courtoises, lui ont tourné franchement le dos. Nous avons été témoins de cette révolution qui, nous devons le dire pour rentrer dans notre cadre simple et sans ornement, ne l'affecta pas beaucoup. C'est à ce moment-là qu'il songea sérieusement à écrire pour le théâtre. Il venait de mettre un pied dans le vrai, il brûlait d'y mettre l'autre. Mais que d'obstacles l'attendaient ?